Merci d'abord à Marc Fumaroli et à Antoine Compagnon de m'avoir invité à prendre part à ce colloque. Philippe Berthelot a été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un des principaux acteurs et inspirateurs de cette République des lettres, de l'entre-deux-guerres dont il est question dans ce colloque. République qui, grâce à lui et à travers lui, s'est trouvée au cœur de l'action diplomatique de notre pays. Exalté et célébré par les grands écrivains dont il fut le protecteur, l'ami et le confident, Paul Claudel, Jean Giraudoux, Saint John Perse, qui s'appelait Alexis Léger en tant que diplomate, Paul Morand, tous diplomates de carrière et représentants de l'élite française, qui, pour Berthelot, avait vocation plus que tout autre à représenter la France à l'étranger, Berthelot a eu un rôle considérable dans la politique étrangère de cette période cruciale de l'histoire nationale et européenne. Tout-puissant secrétaire général du Quai d'Orsay, il n'avait rien, cependant, d'un fonctionnaire classique. Ce paradoxe à la fois magnifique et scandaleux, comme disait Claudel, était un personnage fondamentalement romanesque, anticonformiste et provocateur, cynique et séduisant, pour qui la vie était avant tout un jeu, et le service de l'État, une aventure supérieure. Dans un monde voué au néant, pour lui, l'histoire n'avait d'autre sens que d'assurer le triomphe, tôt ou tard, de la raison et de l'intelligence. Ma conviction est que toute vérité finit par prévaloir, affirmait ce fils de positiviste, convaincu que servir l'État était une tâche noble qui requérait des hommes de race. Ajoutons que Philippe Berthelot ne plaçait qu'une chose au-dessus de l'État, non pas Dieu, mais la poésie. Bien qu'irrégulier en tout, et sur bien des plans ennemi des lois, en bon disciple de Barrès, son ami de jeunesse, Berthelot avait profondément conscience d'appartenir à une hérédité d'exception, à une aristocratie républicaine, dont la marque première était sa supériorité intellectuelle. Son père, le chimiste Marcelin Berthelot, était, je ne vous apprends rien, un des grands génies scientifiques du XIXe siècle. À 33 ans, sa thèse intitulée « La chimie organique fondée sur la synthèse » avait bouleversé l'état des connaissances en démontrant que l'humanité pouvait reproduire à l'infini, ou presque, les métamorphoses de la matière. Pour ce jeune génie hanté par l'évolution des espèces, le progrès scientifique ouvre ainsi une ère nouvelle dans l'histoire des peuples, dont tous les problèmes sont appelés à être un à un résolus, maîtrisés, dans l'accomplissement inéluctable de la justice et de la vérité. Acte de foi dont on peut sourire aujourd'hui, après que le progrès a trahi ses limites, mais qui n'en ont pas moins constitué la certitude tranquille de plusieurs générations. Philippe Berthelot a été formé à cette école, et son œuvre diplomatique puise tout entière ses racines dans les idéaux dont il s'est les idéaux de son père, dont il s'est toujours senti le garant au poste qu'il occupait. Ami de renom, professeur au Collège de France, Marcelin Berthelot a été un de ces saints laïcs voués à reposer un jour au Panthéon, ce qui lui fut accordé, fait exceptionnel, sitôt après sa mort, quasiment le surlendemain, en 1907, et qui plus est aux côtés de son épouse, décédée un quart d'heure avant lui. L'assurance altière et souveraine dont Philippe Berthelot a souvent donné l'image, il l'entretenait d'ailleurs avec soin, venait de ce sentiment d'être né privilégié non par la fortune, mais par le prestige de la connaissance. À l'instar de ses trois frères, René, qui était un grand universitaire et le meilleur ami de Léon Blum, d'un physicien de renom qui s'appelait Daniel Berthelot et d'André Berthelot, qui était un grand industriel, qui a inspiré le personnage de Ferral dans La condition humaine. Philippe sera toutefois le seul à chercher sa voie, ayant répugné à faire des études sérieuses et méprisant toute idée de carrière. Sa vocation première fut la littérature, en même temps d'ailleurs que le jeu, le dandysme et, si je puis dire, la curiosité. Une curiosité si dévorante qu'un de ses amis disait « il ferait sauter le monde pour voir ». Doué pour tout, il découvre presque par hasard la diplomatie, grâce à son père qui, devenu très brièvement ministre des Affaires étrangères, lui permet d'entrer au Quai d'Orsay par la petite porte, après que son fils, Philippe, donc, eut échoué à deux reprises au concours diplomatique. Berthelot est ainsi devenu secrétaire général du Quai d'Orsay sans avoir réussi le concours diplomatique. La diplomatie apparaît très vite à ce dilettante qui ne se trouve pas assez de génie pour être digne d'une carrière littéraire, comme le seul moyen, et le moyen idéal en tout cas, d'exercer à la fois son sens de l'observation, de l'influence, si ce n'est de la manipulation, et son désir de tout connaître du monde et de la vie. Le moyen aussi de traduire dans l'action l'héritage moral et intellectuel de sa lignée. La diplomatie est en outre indissociable à ses yeux de la littérature, parce que le style et les mots, du moins à cette époque, y jouent un rôle essentiel, comme l'ont prouvé la plupart des grands ambassadeurs, et que lui-même l'a prouvé, qui était, quoi qu'il en dise, un véritable écrivain. Sa fascination du mystère et son goût de l'aventure l'entraînent très vite vers l'Extrême-Orient, et particulièrement la Chine, terre d'initiation fondamentale pour cet apprenti diplomate, qui découvre un jour de 1903, au hasard de ses pérégrinations, à Fuzhou, un consul hors norme, en même temps qu'un des plus grands poètes de son temps. Il s'appelle Paul Claudel. Claudel concilie aux yeux de Berthelot, malgré son catholicisme exacerbé, les vertus qu'il place le plus haut. D'emblée, ils se reconnaissent un langage commun qui, au besoin similaire d'étreindre l'univers, d'envahir le monde, selon le mot de Claudel, mêle une exigence primordiale d'efficacité concrète dans l'action et le travail diplomatique. Berthelot, c'est l'anti-Norpois, pour faire allusion au personnage de Proust. À son retour de Chine, fort de l'expérience acquise sur le terrain, il va bouleverser les rites de la diplomatie traditionnelle en se faisant, en 1907, l'initiateur d'une refonte profonde du fonctionnement du Quai d'Orsay. Réforme capitale par laquelle Berthelot marque son territoire pour longtemps. À l'homme de salon, pétri d'usages et d'idées générales, il substitue un expert en prise directe avec les réalités mondiales, parlant commerce, finance, comme autant de langues vivantes. Admirateur de la grande administration chinoise, Berthelot a calqué sa réforme sur ce modèle séculaire, liant indissociablement responsabilité et centralisation comme le secret de l'ordre suprême. Une direction unique, coiffant l'administration centrale dans son entier, définira l'unité de doctrine et répartira ses attributions entre quatre sous-directions géographiques, Europe, Asie, Amérique et Afrique, là où l'ancien système faisait se chevaucher, sans distinction ni hiérarchie réelle, les continents, les hémisphères et les empires. En créant un service de communication, c'était le premier, chargé de l'analyse du courrier diplomatique, des revues de presse, du contact avec les journalistes, Berthelot intègre l'opinion publique comme une donnée nouvelle du jeu diplomatique, au risque de bouleverser un peu plus l'esprit de chancellerie. Nommé sous-directeur d'Asie comme il se doit, Berthelot entend expliquer à ses contemporains, et plus encore à ses pairs, que la civilisation et l'avenir du monde ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe. Mais c'est sur l'Europe que va se concentrer, par la force des choses et des événements, l'essentiel du travail de Berthelot à partir de 1913, où il est nommé directeur de cabinet de Stéphane Pichon, un de ces ministres dont il se plaît à la fois à brocarder et à exploiter les insuffisances pour consolider sa propre autorité et imposer ses vues. Adepte de la formule de Bismarck, pour qui l'indignation n'est pas un état d'esprit politique, Berthelot pense que toute politique doit procéder d'une intelligence constamment à la recherche du vrai et qui se fonde avant tout sur la raison. À l'absurde, opposer la connaissance, à l'arbitraire, le droit, de l'informe, tirer le sage équilibre. La liberté de tout faire et le droit de tuer sont un vin trop fort pour la raison de l'homme, dit-il, en citant Hippolyte Taine, qui était un des écrivains qu'il a fréquenté aux côtés de son père dans sa jeunesse. Dans la terrible épreuve de vérité que l'Europe s'inflige elle-même à travers la Grande Guerre, Berthelot verra plus que jamais s'affronter au-delà des hommes ces forces invisibles qui, pour lui, inspirent l'histoire des peuples et commandent secrètement à leur destin. Quelle influence sera dès lors plus nécessaire que celle d'une intelligence supérieure, capable de dominer l'événement et d'imposer à terme la seule vérité de la raison ? Quand il pense ça, naturellement, Berthelot pense à lui-même. C'est alors que ce grand commis trouve en novembre 1915 auprès d'Aristide Briand, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, le partenaire politique qui lui a jusqu'ici fait défaut. Pas de père Joseph sans Richelieu, même si Briand est loin d'avoir l'envergure du cardinal. Je ne connais rien dont M. Briand est plus horreur que la pensée, si ce n'est l'action, disait Berthelot. Leur connivence procédera de l'association des contraires. Quoi de plus insolite, en effet, que cet attelage du lyrisme débraillé, qui était un peu celui de Briand, et de la raison stricte, celle de Berthelot, de la nonchalance un peu maladive du président du Conseil et de la plus haute rigueur professionnelle qui était celle du secrétaire général, en tout cas du directeur de cabinet, à ce moment-là de Briand. Ce chef-d'œuvre d'antithèse, Berthelot l'apprécie en connaisseur. Berthelot capte la confiance de Briand en le déchargeant de tout labeur, en s'employant sur tous les fronts, avec une compétence quasi infaillible, en épurant la masse des dépêches, des rapports, jusqu'aux synthèses les plus concises. À ce ministre intuitif, qui pour lui d'ailleurs incarnait l'artiste en politique, l'homme qui savait s'exprimer dans les tribunes, qui savait émouvoir une assemblée, ce que Berthelot était incapable de faire. Donc à ce ministre intuitif qui ne lit jamais rien, écrit moins encore et préserve son bureau du moindre dossier, il veille à ne soumettre que les instructions majeures et les problèmes en partie réglés. Agent d'exécution, Berthelot figure aux côtés de Briand une sorte de directeur de conscience, de garant des grands principes, qui veille sans relâche à la cohérence de l'œuvre commune et rattrape les concessions abusives, les emballements trop coûteux. Vigilance qui, hélas, n'empêchera nullement Briand de suivre à sa guise quelques-unes de ses inspirations téméraires, ni de se prêter parfois aux transactions les plus imprudentes. Ce qu'il faudrait, ce serait créer une Europe nouvelle, déclare en privé, peu après son investiture, le nouveau président du Conseil. Une Europe qui se fonderait donc et qui fonderait son destin sur le droit des peuples et la liberté des nations. Vision sans doute encore chimérique et abstraite, mais qui déjà ouvre l'horizon, donne à cette guerre sa plus noble sans doute raison d'être et détermine en tout cas l'alliance Berthelot-Briand. D'entrée de jeu, l'artiste et l'homme de raison s'accordent sur ses visées essentielles. Le 20 décembre 1916, le président Wilson adresse une note aux belligérants, les invitant, belligérants donc les alliés et les Allemands, les invitant à formuler leur but de guerre. C'est Berthelot qui rédigera la réponse de la France et à travers cette réponse tracera les plans de cette Europe nouvelle à laquelle il songe aux côtés de Briand. Les plans de cette Europe nouvelle, c'est quoi? Premièrement, restauration de la Belgique, de la Serbie et du Monténégro avec les dédommagements qui leur sont dus, évacuation des territoires français, bien sûr, russes et roumains occupés par les puissances centrales avec de justes réparations. Deuxièmement, respect des nationalités, du droit des nationalités, restitution des provinces ou des territoires autrefois arrachés aux alliés par la force ou contre le vœu des populations, libération des Italiens, des Slaves, des Roumains et des Tchécoslovaques de la domination étrangère, affranchissement des populations soumises à la sanglante tyrannie des Turcs et rejet de l'Empire ottoman en Asie. Troisièmement, réorganisation de l'Europe pour l'établissement d'un régime qui assurait aux petits États comme aux grands la pleine sécurité et la liberté de développement économique et qui permettrait, par des conventions appropriées, de garantir les frontières terrestres et maritimes de ces États contre des attaques injustifiées. On décèle sans peine l'empreinte de Berthelot derrière ces mots essentiels, juste réparation, respect du droit des nationalités, libération, affranchissement, liberté de mouvement, ce sont des mots de vérité, de justice et de raison qu'il tient en quelque sorte de naissance. Indigné par la mystique wilsonienne et l'intrusion des Américains, ces indésirables nécessaires, comme il dit, dans les affaires de l'Europe, pour qui Berthelot considère qu'il n'y aura aucune stabilité durable sur le continent si l'on n'en finit pas, une fois pour toutes, avec l'ambition militariste de l'Allemagne. Et voilà pourquoi il milite en vain, mais il milite, à partir de 1917, contre l'idée d'une paix négociée au lieu d'une paix dictée, c'est-à-dire contre toute cessation des hostilités avant que l'Allemagne soit battue sur son sol et jusqu'à Berlin, ce qui se passera à la guerre suivante, mais qui ne s'est pas passé en 1918. Et la mise en garde de Berthelot, qui n'est pas connue, mais qui est capitale, est à ce sujet pour le moins prémonitoire. Un armistice, écrit-il, dès ce moment-là, permettrait à l'armée allemande de se réarmer et de se préparer dans des conditions favorables à une nouvelle lutte. Du point de vue politique, l'ennemi sera dans une position plus forte s'il conserve son armée intacte derrière ses anciennes frontières que si pendant les négociations même, il les voit s'effondrer peu à peu sous les coups répétés des alliés. Pour ces raisons, poursuit-il, l'ennemi, même s'il sait qu'il ne peut accepter nos conditions probables de paix, a intérêt à obtenir l'armistice. Et pour ces raisons, des négociations sans armistice offriraient moins de danger pour les alliés, même dans l'hypothèse vraisemblable d'un résultat nul. C'est la position inverse qu'adopteront les alliés, entraînés par Wilson et avec l'accord de Clemenceau, qui, nouveau président du Conseil en 1917, tient à l'écart Berthelot, dont il se méfie, de la conférence de la paix, qui suit la signature de l'armistice de novembre 1918. S'il n'est donc pas directement associé, contrairement à ce qu'on a souvent affirmé, aux travaux de la conférence de la paix, au point d'être tenu pour un des responsables de ces funestes résultats, Berthelot n'en a pas moins joué un rôle décisif au sein de la commission des nouveaux États européens en soutenant la création de ce qu'on appelait la Petite Entente. Ami de Benesch et de Stefanik, Berthelot est particulièrement attaché à l'idée d'un État tchécoslovaque indépendant, garant d'un pivot anti-germanique, s'appuyant sur la Yougoslavie, l'Italie, la Pologne et la Roumanie, soudées entre elles par des systèmes d'alliances défensives et une étroite solidarité économique. La France, pour lui, doit s'instituer le grand protecteur politique, militaire et moral de ce haut lieu de civilisation rendu à son autonomie. Pour Berthelot, la question d'une éventuelle survivance de l'Empire des Habsbourg ne peut être sérieusement envisagée. À ce tel lieu Théo Claudel qui voit dans la destruction de l'Autriche un affaiblissement irrémédiable de l'Europe, il oppose les seuls arguments, comme toujours de la raison, comment un ensemble de peuples tenus par une administration très centralisée résisterait-il à l'écroulement de cette même autorité. Gaston Badeschi lui objectant quelques années plus tard qu'une fédération danubienne néanmoins était concevable, Berthelot balayera cette ultime hypothèse en disant « Non, ceux qui étaient à la tête des États successeurs, donc qui ont succédé à l'Autriche, avaient été trop engagés dans ce combat contre les Habsbourg pour pouvoir se réconcilier avec l'Autriche et la Hongrie. C'était leur demander de se couper de leur base idéologique, c'est-à-dire de leur raison d'être politique. Non, croyez-moi, nous ne pouvions pas agir autrement que nous l'avons fait. » Mais le grand dessein de Berthelot va se heurter aux difficultés inhérentes au règlement d'une paix bâclée, à la sourde résistance de l'Allemagne, comme à la mésentente des Alliés. Tout s'arrange, mais mal, constate-t-il très vite en reprenant le mot de Talleyrand. Redevenu tout puissant après le départ de Clemenceau, Berthelot est nommé secrétaire général du Quai d'Orsay en septembre 1920. Il retrouve brillant quelques mois plus tard. Le duo hérite de l'insoluble question des réparations, mais c'est Berthelot qui doit s'éloigner l'année suivante, congédié à la suite du scandale de la Banque industrielle de Chine, propriété de son frère André, dont Poincaré, son ennemi juré, l'accuse d'avoir favorisé les intérêts. Il ne reviendra à la tête du Quai d'Orsay qu'en 1925, date à laquelle Briand, lui-même, revenu aux affaires, le réintègre dans ses fonctions. Berthelot condamne la politique du coup de force adoptée par Poincaré, notamment avec l'occupation de la Ruhr. Il pense que tout doit être fait, faute de mieux, pour traiter le problème allemand par l'échange et le dialogue. Il l'écrit, il le déclare dans une nouvelle note, méconnue, mais capitale elle aussi, qui date de 1924, où il écrit « On ne peut oublier que si nous sommes les plus forts aujourd'hui, et pendant une dizaine d'années encore, le poids de 70 millions d'hommes organisés et laborieux finira par être plus lourd que celui de 38 millions de Français dans un espace de 20 à 50 ans. Si donc, nous n'arrivons pas à aider à la création d'une république allemande hostile à la guerre. Nous sommes condamnés. Loin de gagner du terrain dans l'opinion démocratique, nous ne cesserons d'attirer la haine. En admettant même que nous aboutissions à faire céder l'Allemagne par notre pression sur la Ruhr, la politique qui suivrait immédiatement devrait être très généreuse et très probablement sacrifier le but même de notre action. Je ne crois pas d'ailleurs qu'aucun gouvernement allemand puisse céder maintenant que le monde anglo-saxon s'est détaché de nous. Ce qui est dramatique, conclut-il, c'est que le moindre recul aujourd'hui nous jettera tout le monde sur le dos. Si nous ne sommes pas pleinement vainqueurs, on arbitrera la situation de manière aussi ruineuse financièrement que destructive de notre prestige dans le monde. » trop lucide pour croire aux vertus du pacifisme, Berthelot préfère ici une approche à ses yeux plus raisonnable en évoquant la formule qui est tout à fait typique de son style, parce qu'elle est faite d'antithèse, d'une Allemagne hostile à la guerre. C'est en tout cas le seul moyen à ses yeux de sauver cette nouvelle Europe, déjà si mal en point, dont il a été dans l'ombre un des principaux architectes. Sceptique quant au rôle même de la Société des Nations, un super parlement où les ténors, dit-il, ont un succès immense mais décevant. Il ne croit qu'en des accords et des alliances réalistes pour éviter un nouveau conflit. L'esprit de conciliation du ministre des Affaires allemand, Gustav Stresemann, lui paraît à cet égard de bon augure. Voilà pourquoi il conseille et il accueille favorablement, quoique sans illusion excessive, la tenue de la conférence de Locarno en octobre 1925. Bien qu'elle se refuse à reconnaître les frontières de l'Est, ces frontières de l'Est telles qu'elles résultent du travail du traité de Versailles, l'Allemagne consentira au terme de la conférence à soumettre tout conflit survenant avec l'un ou l'autre de ses voisins d'Europe centrale à une procédure d'arbitrage. Berthelot convainc dans le même temps brillant d'inclure dans le pacte un double traité d'alliance réciproque entre la France et la Pologne d'une part, la Tchécoslovaquie de l'autre. Ainsi, les accords de Locarno dépasseront-ils la seule Europe de l'Ouest ? Persuadé de la fragilité du dispositif constitué par la petite entente, Berthelot songe manifestement à une ouverture de la France à l'Est, beaucoup plus vaste, c'est-à-dire en direction de l'URSS. Il sera d'ailleurs un des premiers à nouer des liens diplomatiques avec l'URSS. Philippe Berthelot n'a jamais cru à la valeur absolue de Locarno, me confiait il y a bien des années un de ses disciples les plus fervents qui s'appelait Léon Noël, Léon Noël auquel je dois d'ailleurs d'avoir découvert en quelque sorte Berthelot. C'eût été pour lui céder à une mystique trop éloignée de son pragmatisme et même de son caractère. Mais sur le plan pratique, précisément, le mécanisme mis en place en 1925, si imparfait soit-il, a le mérite pour lui de colmater les brèches laissées par le traité de Versailles. À ses yeux, l'essentiel est qu'à travers le pacte de sécurité, la France retrouve la garantie anglaise, devenue caduque en 1919 après la défection des États-Unis, dont le Congrès n'avait pas reconnu le traité de Versailles. Il n'en est pas moins vrai que Berthelot s'en tient à une extrême prudence vis-à-vis de l'Allemagne, tandis que Briand, fidèle à lui-même, manifeste un optimisme exacerbé, encouragé en sous-main par son directeur de cabinet, Alexis Léger, protégé de Berthelot en tant que poète, mais dont il est en passe de devenir le rival en tant que fonctionnaire. Berthelot a beau être l'ami des poètes, rien ne lui répugne davantage que le lyrisme et le flou idéologique en matière diplomatique. Le rapprochement franco-allemand demeura pour lui une illusion et une duperie, aussi longtemps qu'il ne se fonde pas sur un accord équitable et réaliste, incluant donc les compensations financières que la France est en droit d'attendre de l'Allemagne, alors que celle-ci a tiré largement profit déjà de l'aide américaine. Mais c'est une toute autre démarche que la France adopte à partir de 1928. Le 27 août de cette année-là, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, se joignant à la France et aux États-Unis, déclare renoncer à l'usage de la guerre. L'idéalisme pacifiste est à son apogée. Les États adhèrent au pacte par dizaines dans les mois suivants, l'URSS y compris, dont le maître s'appelle Joseph Staline, preuve qu'on ne s'engage pas à grand-chose. Le problème est simple, dit Berthelot. Accepterons-nous de payer les destructions méthodiques de nos régions envahies ? La réponse ne peut être que non, jamais. On ne peut s'entendre loyalement avec les Allemands qu'après qu'ils auront payé. Huit mois plus tard, la France s'engage à évacuer la Rhénanie dans les 8 mois, avant même que le nouveau plan de paiement des réparations élaboré à La Haye sous le contrôle américain soit entré en application. Voué à régler magnifiquement les affaires courantes, selon le mot d'Henri de Jouvenel, le secrétaire général a perdu dès lors toute emprise sur l'évolution des choses. Comme décapé par le recul qui lui est imposé, son jugement n'est plus que de colère ou d'ironie amère. Trop de palabres, trop de compromis hâtifs, trop de temps perdu ont transformé la diplomatie à ses yeux en une machine à brasser des illusions. Des mots, c'est le seul commentaire qu'il réserve au projet de fédération européenne lancé en septembre 1929 à la Société des Nations par Aristide Briand, avec le plein appui d'Alexis Léger. Le grand défaut des hommes politiques, dira Berthelot, c'est que la réalité n'existe pas pour eux. Malade et désabusé, Philippe Berthelot, conscient qu'il plus est d'être devenu un serviteur inutile, quitte ses fonctions au début de 1933, cédant la place à Alexis Léger, avec les conséquences que l'on sait. Il mourra l'année suivante. À travers lui s'achevait une certaine époque de cette République des lettres qu'il a magnifiquement incarnée, celle d'une élite intellectuelle attachée au service de l'État, conçue comme le seul et ultime véritable garant d'un monde de paix, de justice et de vérité. Merci.